Écoutez, passé, présent, l'émission historique de Radio Judaïka, avec moi en studio Bernard Xibaud, qui est le président de la Société d'Histoire de l'Église d'Alsace, et avec lequel nous allons nous entretenir d'un sujet tout à fait passionnant, mais aussi relativement méconnu. Une période de près d'un siècle et demi qui concerne la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg, qui fut protestante. Cette histoire commence dans la première moitié du XVIe siècle, en 1529 précisément, et elle va courir jusqu'à la fin du XVIIe siècle, jusqu'au moment où Strasbourg devient une ville française, en 1681. Bernard, bonjour.
Bonjour Jean-François.
Et essayons déjà de contextualiser ce qui se passe dans le domaine religieux, mais aussi dans le domaine politique. Tout est très lié à cette époque, au début du XVIe siècle, à Strasbourg.
Oui, d'abord il faut savoir, on le sait, que Strasbourg était partie intégrante du Saint-Empire romain germanique, et qu'au sein de cette entité politique originale, qui voyait un certain nombre de poussières, de principautés, de villes libres...
Plus de 300.
Réunies autour d'une seule entité, mais chacune ayant son indépendance. Au sein de cet empire romain germanique, un certain nombre d'idées religieuses étaient en train de se développer, et notamment les idées de Luther, donc quelque part en Saxe, Et donc, ce qui est absolument étonnant dans cette histoire, c'est la rapidité avec laquelle les idées de Luther, je rappelle qu'on donne la date de 1517 pour la publication des thèses sur les indulgences.
31 octobre 1517.
Voilà,
jour de la Réformation. Ce que les protestants célèbrent comme la fête de la Réformation.
Voilà. Eh bien... vous imaginez un petit peu, donc en 1517, donc Luther publie ses thèses. On considère généralement que c'est vraiment le début donc de sa réforme. Et puis, en fait, dès 1521, autrement dit, 4 ans plus tard, c'est rien du tout. Les idées de Luther commencent à être accueillies à Strasbourg par un certain nombre d'ecclésiastiques, et notamment d'un d'entre eux qui va jouer un rôle majeur dans cette histoire, qui s'appelle Matthias Zell, qui occupe la fonction, j'allais presque dire, stratégique de pléban à la cathédrale. À l'époque, à la cathédrale, il y a une multitude de prêtres dont la plupart sont exclusivement là pour célébrer des messes. On appelle des messes de fondation, donc qui ont été établies par des familles pour leurs défunts. Eh bien, ce pléban, qui est en contact avec la population, puisque c'est lui qui est en quelque sorte le curé de la paroisse, voilà qu'à partir de 1521, il va commencer à reprendre dans ses prédications les idées de Luther. Et pourquoi est-ce que ces idées vont être accueillies finalement avec enthousiasme par la population? Parce que l'Église de la fin du Moyen-Âge, notamment donc dans notre région, souffre de maux très graves, notamment au niveau de son clergé, de son haut clergé de sa gouvernance, si on peut dire. Et il y a déjà eu des pré-réformateurs, si j'ose dire, notamment à Strasbourg, il y a le fameux Geiler de Kaisersberg qui a déjà prêché dans la cathédrale, notamment pour appeler à la réforme de ce haut clergé. Alors, qu'est-ce qu'on lui reproche, ce haut clergé? Ben, finalement, d'être exclusivement intéressé par les revenus attachés à la charge, de ne donner aucunement... exemple de vertu et de valeur évangélique, de vivre même comme des patachons, et puis finalement de mener l'Église à sa ruine. Luther a quelques remèdes, entre guillemets, pour cela. Un des remèdes, c'est de revaloriser les fidèles, hein, les fidèles laïcs, hein, qui jusque-là ne bénéficient pas d'une attention particulière. Et puis, il veut réformer le clergé, par exemple, en autorisant les prêtres à se marier plutôt que de vivre maritalement avec leur cuisinière. Et puis, il veut absolument que la formation chrétienne pénètre les masses. Or, pour cela, il faut renoncer à célébrer, d'après lui, la messe et les autres sacrements en latin, une langue de clerc, donc une langue d'élite. Il faut adopter la langue du peuple, en l'occurrence l'allemand. Hein. Voilà, ce sont quelques-unes des idées de Luther, et précisément, ce sont les idées que Matthias Zell reprend dans sa prédication à partir de 1521.
Alors, Matthias ou Matthieu Zell, on n'est pas tout à fait certain de son prénom, n'est pas le seul à partager ses idées nouvelles à Strasbourg.
Non, non, non. Il y a également, au sein du chapitre de Saint Thomas, qui est également une instance très importante, hein, il y a également d'autres ecclésiastiques. Et puis, il va arriver à Strasbourg, alors ça va être déterminant.
Un dominicain.
Voilà, Martin Bucer, hein, voilà, qui arrive. Hein.
Il est originaire de Célestat.
Il demande un peu l'asile, si j'ose dire, à la ville de Strasbourg. Et alors, il va jouer un rôle capital, je dirais, dans la prédication de la réforme et dans son établissement. Hein.
Matthieu Zell, par défiance, va prendre épouse. Et cette épouse va jouer un rôle considérable dans l'affirmation de la réforme à Strasbourg. C'est la grande femme du mouvement réformateur strasbourgeois. Elle a laissé des écrits tout à fait intéressants. C'est Catherine Zell.
Oui, alors, il y a le pléban de Saint Thomas, donc j'ai parlé du chapitre de Saint Thomas, Antoine Firn, qui lui va épouser en quelque sorte, justement sa cuisinière, enfin bon, sa compagne, il faut dire, j'allais dire, les choses étaient assez claires. Donc. Et donc, dans le cas d'Antoine Firn, on peut dire qu'on a véritablement affaire à un mariage de régularisation. Hein. Et il demande à Matthias Zell de célébrer ce mariage. Mais suite à cela, hein, ça se passe en novembre 1523, lui-même, Matthias Zell, va choisir une épouse. Et là, il le fait dans le cercle des personnes qui l'écoutent. Hein. Et c'est une femme qui semble très attentive à sa prédication. C'est une femme étonnante qui a reçu une certaine éducation, plus que les femmes de son époque, il faut bien
dire.
Alors
qu'elle est fille d'artisan.
Oui, semble que son père ait vraiment voulu qu'elle ait une véritable éducation. Et alors elle va être également une cheville ouvrière, puisque, en vertu du droit canon de l'Église, ce mariage célébré publiquement entraîne une sanction très grave. Hein, donc, en fait, l'évêque, depuis Saverne où il réside, va excommunier Antoine Firn, Matthias Zell, et puis les quatre autres prêtres, je crois, qui ont pris femme. Hein. Mais Catherine va être la seule à prendre sa plume, parce qu'elle en a une, hein, et elle va écrire une sorte de pamphlet, si j'ose dire, enfin, pour justifier en quelque sorte donc, son propre mariage et justifier également les mesures prises par la réforme.
Alors progressivement, les paroisses strasbourgeoises vont basculer dans le camp réformateur.
Oui, alors ça va se faire non pas par des adhésions, parce qu'il est tout à fait prématuré d'imaginer qu'il existerait une église catholique, une église protestante, et qu'il faille choisir entre les deux. Ça n'a pas de sens à l'époque.
Hein. Les choses sont plus floues.
Il y a encore une seule église, on va dire. Voilà. Mais au sein de cette église, les uns prennent parti pour le statu quo, pour l'attachement au pape, etc. Et les autres prennent parti, précisément, pour la réforme. Et ce qui les empêche pas de dialoguer avec les autres, chacun cherchant à convaincre encore les autres. Hein. Eh bien, dans ce cadre-là, ce sont des mesures finalement très symboliques qui marquent le passage. Hein. Alors, une première mesure symbolique, c'est par exemple de commencer à dire la messe en allemand. Alors là, vraiment, vous imaginez, la messe qui était toujours célébrée en latin depuis des siècles et des siècles, soudain, dans la langue compréhensible par le peuple. Hein. Et puis, une autre mesure symbolique, Luther, la réforme est hostile, veut rétablir véritablement l'adoration de Dieu et donc estime que les saints ont pris trop de place au Moyen-Âge. Hein. Et c'est vrai que beaucoup de saints en plus étaient considérés comme des espèces de, de, de thaumaturges presque divinisés, là, voilà. Alors, ils ont des statues sur des piédestals dans les églises, etc., etc. Donc, une autre mesure forte consiste à supprimer les statues en question. Et puis, on va commencer à enseigner davantage la Bible. Voilà, même à un certain moment, on va abandonner les messes du matin, voilà, et on va les remplacer par des enseignements bibliques. Alors là aussi, pour les fidèles, c'est vraiment merveilleux. On leur explique les textes bibliques dans leur langue.
Était jusqu'alors l'apanage du clergé.
Exactement, exactement. À cause, encore une fois, de cette frontière de la langue. Alors ça, ce n'est pas la faute à l'Église. Si, à l'écroulement de l'Empire romain, finalement, la langue latine s'est maintenue pour les savants. Et puis, les langues populaires sont nées, donc pour le peuple. Et on n'a jamais pris la peine de dire on va parler la langue du peuple. Là, maintenant, c'est fait. Voilà.
Nous allons marquer une première pause musicale dans cette émission Passé-Présent. On vous retrouve tout de suite après Bernard Xibaud pour poursuivre cette discussion à propos de la cathédrale de Strasbourg protestante, j'ai bien dit protestante, c'est un siècle et demi environ de son histoire. Alors c'est votre cousin Claude François qui nous accompagne, Bernard.
Très très lointain cousin.
Mes cousins quand même.
Voilà.
Nous écoutons l'un de ses plus grands succès, c'était en 1967. Comme d'habitude, titre qui a été repris ensuite par Frank Sinatra, c'est devenu My Way, l'un des plus grands succès de la chanson américaine.
Je me lève et je te bouscule, tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap, j'ai peur que tu aies froid. Comme d'habitude, ma main caresse tes cheveux, presque malgré moi, comme d'habitude. Mais toi, tu me tournes le dos, comme d'habitude. Et puis, je m'habille très vite. Je sors de la chambre comme d'habitude. Tout seul, je bois mon café. Je suis en retard comme d'habitude. Sans bruit, je quitte la maison. Tout est gris dehors.
Comme d'habitude, tu me souviras, oui, comme d'habitude.
écoutez Passé Présent, l'émission historique de Radio Judaïka. Mon invité aujourd'hui, le chanoine Bernard Xibaud, président de la Société d'Histoire de l'Église d'Alsace, pour évoquer un sujet souvent mal connu ou méconnu, la cathédrale de Strasbourg protestante. C'est à peu près un siècle et demi de son histoire, entre 1529 et 1681. Alors 1529, c'est le basculement. La cathédrale est la dernière paroisse à épouser la cause réformatrice, précisément la paroisse Saint-Laurent, puisque c'est à ce saint qu'elle est dédiée. Qu'est-ce que cela va entraîner comme transformation dans la cathédrale ?
Alors, il existe une chapelle à la Vierge, à laquelle les Strasbourgeois sont très attachés. Je rappelle qu'à l'époque, il existe ce qu'on appelle un jubé. Alors, le jubé, c'est une espèce de séparation en pierre. Hein,
comme un mur de pierre, voilà, assez ajouré quand même.
Comme des arcades de cloître, voilà, un petit peu. Hein. Et ça sépare le chœur dans lequel les clercs célèbrent l'office en latin et la nef dans laquelle évoluent les fidèles. Hein. Alors, ce jubé ne va pas être touché. En revanche, la statue de la Vierge qui était dans cette chapelle et à laquelle les Strasbourgeois étaient très attachés, va être enlevée. Hein. Ce qui dit bien quand même l'importance de l'adhésion populaire. Hein. Parce que 20 ans auparavant, enlever la statue de la Vierge, ça aurait créé la Révolution. Hein. Or là, la chose se fait parce que les gens sont emportés dans ce mouvement, voilà, qui veut lutter contre l'influence trop grande des saints, de la Vierge, etc. etc. L'autel en pierre, enfin sur lequel on célèbre, qui rappelle davantage l'aspect sacrificiel de la messe, est remplacé par une table en bois qui évoque plutôt le dernier repas de la scène. Et puis alors, bon, difficile de dire si c'est vraiment un fruit de la réforme, mais peut-être quand même, oui. Il existait des très nombreuses pierres tombales dans la cathédrale. En fait, on marchait sur les pierres tombales.
Hein. C'est ce qu'on appelle l'enfeu.
Voilà, voilà.
Et être inhumé dans l'édifice cultuel, ce qui était un gage, a priori, d'accession plus rapide au paradis.
Et qui, du coup, était réservé, finalement, aux clercs et aux personnages
illustres.
Voilà, exactement. Eh bien, toutes ces pierres tombales sont enlevées, remplacées par des simples dalles, hein, qui permettent plus aisément, si j'ose dire, de cheminée. Hein. En revanche, là aussi, le maître-autel, le grand maître-autel en bois, donc avec un grand retable, hein, qui était dans le chœur, ne va pas être touché parce que finalement, ce chœur n'intéresse pas vraiment les protestants. Hein. Eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont réunir les fidèles dans la nef, voilà, et c'est là qu'ils vont supprimer les multiples petits autels auxquels célébraient tous les matins. Là,
soixantaine d'autels.
Incroyable, oui. Eh bien,
c'est le pourtour de la cathédrale.
C'était le fruit du Moyen-Âge, hein, toutes ces familles qui avaient créé des fondations. Chaque fondation était liée à un autel et il y avait un prêtre pour chaque autel pour dire ses messes. Eh bien, tout ça disparaît, effectivement.
Alors, cette cathédrale va rester protestante, je vous l'ai dit, pendant près d'un siècle et demi, mais il y a une parenthèse. Une parenthèse relativement courte, elle va durer 11 ans, précisément, entre 1548 et 1559, c'est ce qu'on appelle l'intérim, où cette cathédrale Notre-Dame de Strasbourg est restituée au culte catholique.
Oui, alors ça, c'est un épisode assez étonnant. En fait, dans le cas du Saint-Empire, Charles Quint, l'empereur, donc, se fait champion de la fidélité au pape et à Rome, hein, et il lutte contre un certain nombre de princes, hein, les électeurs de Saxe et compagnie, qui défendent les idées de Luther. Et il se trouve que en 1548, les troupes impériales ont gagné un certain nombre de victoires et Charles Quint est en position de force pour imposer ce qu'il appelle l'intérim. Alors, intérim, ça veut dire pendant ce temps, entre temps, voilà. Alors, l'idée est la suivante. Puisque la chrétienté se déchire, on va faire ce qu'on fait toujours dans ces cas-là. On va convoquer un concile universel pour discuter, voilà, avec tous les évêques du monde. Mais entre-temps, intérim, le temps que ce concile ait pris des décisions, on va recréer une sorte de statu quo, c'est-à-dire on va revenir au culte traditionnel. La seule chose sur laquelle on ne reviendra pas, c'est le mariage des prêtres. Parce que les prêtres qui se sont mariés, ben, ils vont pas, on ne va pas les divorcer le temps que, etc. Alors, l'empereur promulgue la chose pour l'ensemble de son empire. Comme dit, elle doit être acceptée en tout lieu de cet empire. On a dit qu'il y avait plus de 300 composantes. Hein. Et la ville libre de Strasbourg est une de celles qui résiste le plus. Hein, voilà. Mais finalement...
C'est le cas de Martin Bucer, en particulier,
ah ben évidemment.
Qui, lui, est franchement hostile à cette idée.
Ah ben, ça revient finalement à effacer la réforme dans l'attente hypothétique qu'elle revienne.
Ce qui le conduira à l'exil en Angleterre.
Exactement, exactement. Alors, toujours est-il que finalement, donc, la ville de Strasbourg se voit contrainte d'établir les choses. Alors, la façon suivante, en fait, les chanoines vont pouvoir réinvestir le chœur pour célébrer leurs offices. Mais le problème est que la population les a abandonnés. Hein. Elle est même hostile. Si bien qu'il va falloir que la ville de Strasbourg poste des gens d'armes, hein, en trois mots, voilà, des gens d'armes, pour les protéger. Hein. Un peu comme aujourd'hui, les CRS interviennent dans les manifestations. Hein. Alors, vous imaginez un petit peu pendant...
C'est dans l'église, quand même.
C'est dans l'église, oui. Pendant 10 ans, vous avez donc les chanoines... qui essaie de chanter des psaumes en latin là, dans le chœur. Et puis, vous avez des grilles, vous avez des soldats qui veillent et vous avez la population qui tourne autour en manifestant des sentiments d'hostilité. Hein. Donc, c'est quand même un peu particulier. Et en fait, ça aurait dû durer, on l'avait bien dit, jusqu'à ce qu'un concile se réunisse. Mais la ville de Strasbourg n'avait promis l'assistance de gendarmes que pendant 10 ans. C'est la raison pour laquelle, quelques semaines avant l'arrivée des 10 ans, la ville a fait savoir qu'au jour anniversaire des 10 ans, il n'y aurait plus de protection. Autrement dit, les chanoines se réuniraient à leur risque et péril. Et la population, en fait, va devancer ce jour de quelques semaines. Et voilà qu'elle va, on est en hiver, elle va envahir le cœur.
C'est assez brutal, quand même.
Oui, oui, on parle de lancement de cailloux, on parle de boules de neige, on parle de... Vous imaginez un petit peu, alors les chanoines s'enfuient. Le plus courageux reste pour parlementer le temps de laisser les autres s'enfuir. Enfin, ça finit dans la débandade, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Hein. Et à partir de ce moment-là, plus personne ne parle d'intérim. Le culte catholique est véritablement interrompu. Mais la ville de Strasbourg n'ose pas faire revenir les protestants qui ont pris refuge dans l'église des Dominicains, le Temple Neuf. Hein. Elle n'ose pas les faire revenir le lendemain, parce que ça, ce serait vraiment un pied de nez trop grand à l'empereur. Hein. Et donc, pendant quelques semaines, la cathédrale va rester inemployée. Ensuite, on fait revenir l'autel en bois du Temple Neuf et on rétablit le culte protestant, voilà. Ce sera en août 1560, voilà. Pardon, ce sera en mai 1561, voilà, excusez-moi, qu'on nettoie la cathédrale, qu'on aménage les bancs des dominicains et le dimanche 18 mai, le service protestant va pouvoir reprendre. Et maintenant, du 18 mai 1561 à octobre 1681, la cathédrale va rester protestante de manière non contestée.
Nous allons parler de la suite de cette histoire dans un instant, Bernard. Mais avant cela, nouvelle pause musicale, toujours Claude François.
Ah.
Un titre de 1973, Belinda.
Il faut que je vous chante pour oublier de filante qui m'a quitté. Vous pouvez m'aider à la trouver. Elle a les yeux bleus, Belinda. Elle a le front blond, Belinda. Ça fait 10 fois qu'elle s'en va et qu'elle revient. C'est elle qui fait mon cœur et qui défait mon cœur de ses mains. Yeux bleus, Belinda, elle a le front
et d'attendre comme je l'ai fait souvent. Mais j'entends crier ma solitude. Je l'appelle et ma voix tombe dans le vent. Elle est dans mon sommeil comme une fleur. Un soleil sans soleil et sans chaleur.
Écoutez Passé Présent, l'émission historique de Radio Judaïca. Mon invité aujourd'hui, Bernard Xibo, chanoine de la cathédrale de Strasbourg, président de la Société d'histoire de l'Église d'Alsace, pour évoquer un sujet passionnant, parfois mal connu, la cathédrale de Strasbourg protestante. C'est un siècle et demi environ de son histoire, entre 1529 et 1681. Alors, qu'est-ce qui va se passer de marquant sur le plan historique, mais aussi patrimonial, durant cette longue séquence protestante à la cathédrale? Je pense en particulier à un bel objet, l'horloge astronomique.
Oui, alors d'abord, la ville a toujours eu un rôle très important dans l'entretien du bâtiment. Bien évidemment, cela a continué pendant toute cette période protestante, la ville elle-même étant devenue protestante. Hein. Et le fleuron, si j'ose dire, qui va venir dans la cathédrale à cette époque, ce ne sont pas quelques inscriptions bibliques là, qu'on retrouve dans le transept nord. Hein. C'est avant tout cette magnifique horloge astronomique qui est établie dans le transept sud, sachant que le meuble mis en place à cette époque, est toujours celui qui est en place aujourd'hui.
Et nous le devons à Hans Thomann Hülberger, qui était maître d'œuvre de l'œuvre Notre-Dame.
Voilà. Alors, il faut dire que c'est un véritable chef-d'œuvre, indépendamment, encore une fois, de la mécanique intérieure qui a disparu et qui a été remplacée par Schwilge au XIXe siècle. Hein. Ce meuble est lui-même un chef-d'œuvre. Et ce qui est très, très intéressant à voir, c'est qu'il porte sur lui les traces de la réforme protestante, hein, notamment dans la manière dont Dieu est représenté. À la même époque où, à Rome, Michel-Ange représente encore Dieu comme un vieillard barbu, voilà, qui tend le doigt vers l'homme qu'il crée, voilà, selon le texte de la Genèse.
Parce que ici à Strasbourg, on est dans les années 1570, hein, entre 1571 et 1574, précisément.
Oui, donc ce n'est pas tout à fait la même époque, mais globalement, nous avons une représentation de Dieu qui se veut plus proche, finalement, de la conception hébraïque, hein, donc à savoir que Dieu ne se représente pas, voilà. Et voilà que Dieu va être...
C'est le symbole qui est mis en évidence.
Exactement. Et c'est l'appellation de Dieu, le tétragramme sacré, en hébreu, traduit en grec, théos, et en latin, deus. Donc vous voyez que la réforme, là, porte une trace importante, donc... Dans cette décoration de l'horloge astronomique.
Hein. Décoration que nous devons à un peintre originaire de Schaffhouse, en Suisse, Tobias Stimmer.
Voilà, voilà.
Il y a d'autres éléments qu'il faut mettre en évidence pour rappeler ce que a pu apporter à la cathédrale la période protestante?
Alors, pour le reste, il y a un certain conservatisme. Hein. Je vous l'ai dit, donc le jubé est maintenu.
Il sera enlevé en 1682,
oui, par
en
les
février 1682.
Par les catholiques, donc vous voyez, c'est tout à fait paradoxal. Hein. Le maître autel sera aussi enlevé par les catholiques, parce qu'ils voudront le remplacer par un maître autel à la mode. Hein. Non, la cathédrale accueille encore une fois le culte, elle accueille l'Eucharistie, elle accueille des baptêmes, voilà. Et puis surtout, elle accueille des prédications, parce que il y a un programme de prédication qui est très bien cadré, hein, à savoir que le lundi, on va parler des lettres de Saint Paul, le mardi, on va parler du Pentateuque, le mercredi. Tout ça est très biblique, hein, dans la ligne vraiment de la réforme protestante. Et tout cela vise, encore une fois, à éduquer le peuple, hein, ce qui n'était pas du tout la préoccupation des clercs du Moyen-Âge.
Nous allons marquer une nouvelle pause musicale dans cette émission. On vous retrouve ensuite, Bernard Cibault, pour aborder la dernière séquence de cette histoire, à savoir la restitution de la cathédrale au culte catholique. C'est en octobre 1681. D'ici là, nous retrouvons Claude François avec un titre de 1977, Alexandrie. Alexandra, c'est l'époque disco.
Voile sur les filles. Sur le Nil, je suis dans ta vie, je suis dans tes bras, Alexandra, Alexandrie, Alexandrie où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas. Je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas. Alexandrie,
Alexandrie,
Alexandra, Alexandrie où l'amour danse au fond des bras. Ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs de froid. Et parque sur le Nil. Je suis dans ta vie. Je suis dans tes draps. Oui. Alexandra, Alexandrie, Alexandrie où tout commence et tout finit. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Ou Alexandrie,
Alexandrie,
Alexandra, ou Alexandrie, ce soir je danse dans tes draps. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Du phare d'Alexandrie
ville sur le Pays, Bac sur le Nil. Alexandrie, Alexandra, ce soir j'ai de la fièvre, toi tu meurs de froid. Ce soir je danse, je danse, je danse dans tes bras. Allez,
vous écoutez Passé Présent, l'émission historique de Radio Judaïca. Mon invité aujourd'hui, Bernard Xibaud, qui est le président de la Société d'Histoire de l'Église d'Alsace et qui évoque pour nous la cathédrale protestante de Strasbourg. Notre-Dame de Strasbourg a été protestante pendant près d'un siècle et demi, et c'est une page intéressante de son histoire que nous tournons avec vous, Bernard. 1681, 30 septembre 1681, après 3 jours de siège, la République de Strasbourg capitule. C'est le traité d'Ilkirch qui prévoit, entre autres, la restitution de l'église épiscopale à l'évêque, un évêque qui réside à Cologne, dont il est chanoine de la cathédrale, et qui vient prendre livraison, en quelque sorte, si vous me permettez cette expression, de sa cathédrale au mois d'octobre.
Alors, là aussi, précisons le contexte, depuis les traités de Westphalie en 1648, Louis XIV a mis un pied en Alsace, et même les deux pieds, j'allais dire, hein, puisque tous les droits des Habsbourg lui ont été dévolus. On peut dire qu'il contrôle véritablement une bonne partie de la région, mais il manque le fleuron, il manque la ville de Strasbourg. C'est la raison pour laquelle Louis XIV a mis le siège, effectivement, et qu'il va y avoir cette capitulation. Alors, dans les négociations, le magistrat de Strasbourg est venu avec l'idée que l'ensemble des églises de la ville resterait protestante. Et au final, Louis XIV n'a accepté qu'à la condition que la cathédrale elle-même deviendrait catholique. Alors pourquoi ? Eh bien, d'abord parce que probablement, même si le roi n'introduira pas l'édit de Nantes et sa révocation surtout dans cette nouvelle partie de son royaume, il ne peut pas tolérer que la plus grande église, je dirais, d'une nouvelle ville de son royaume ne soit pas dévolue au culte catholique alors même qu'il est le roi très chrétien, etc. etc. Par ailleurs, le prince de Fürstenberg, qui se trouve être l'évêque de Strasbourg, alors un évêque exilé, effectivement un évêque qui n'a jamais mis les pieds dans sa cathédrale et qui vit à Cologne, le prince de Fürstenberg a négocié avec Louvois, etc. Il a écrit en disant « Majesté, enfin, j'ose espérer que vous allez rendre à l'évêque du légitime la cathédrale qui lui appartient. » Et Louis XIV a cédé à cette revendication. C'est la raison pour laquelle, aussitôt après la capitulation, donc l'entrée des troupes royales dans la ville, eh bien, l'évêque va entrer une première fois de manière discrète, si j'ose dire. Hein, donc,
pour arranger les modalités de son entrée solennelle.
Voilà. Et puis ensuite, il va sortir tout aussi discrètement pour entrer de manière solennelle avec un cortège extraordinaire là, de prélats, d'abbés, de tout ce qu'on veut, des carrosses. L'entrée de l'évêque dans la ville épiscopale va prendre un relief extraordinaire. Et puis, il se fait conduire à la cathédrale. Alors, c'est un peu pathétique parce qu'il souffre de la goutte.
Il n'est pas en très bon état. Il lui reste quelques mois à vivre.
Exactement. Donc, il faut le porter. Vous imaginez un petit peu la chaise à porteur. Là. Alors, on le met devant la cathédrale. Là, il s'agenouille avant d'entrer. Et il va y avoir alors ce qu'on appelle une réconciliation. Parce qu'à l'époque, dans la conception de l'époque, la cathédrale ayant été abandonné au schismatique, il faut la réconcilier, la réparer, comme on dit moralement en tout cas, donc, en célébrant des cultes, en l'aspergeant d'eau bénite, d'encens, etc. etc. Voilà. C'est ce qui va être fait et c'est ce qui permettra, 2-3 jours plus tard, de recevoir Louis XIV.
Grandiose Te Deum.
Et oui, il rentre dans la ville, il se présente à la cathédrale, on chante le Te Deum qui est un chant d'action de grâce, donc pour remercier Dieu. Et dans sa harangue, l'évêque de Fürstenberg a des mots très beaux. Il reprend le cantique de Siméon dans les évangiles. Siméon qui disait, ayant vu l'enfant Jésus au temple, « Maintenant, ô maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. Voilà. » Et l'évêque de Fürstenberg dit à Louis XIV, « Voilà, eh bien maintenant, mais je peux partir en paix. » Et comme vous le disiez tout à l'heure, ce sera prémonitoire puisqu'il va mourir quelques mois plus tard. Oui.
Que reste-t-il aujourd'hui de cette tradition protestante dans le contexte œcuménique que nous connaissons depuis, disons, le mi-temps du XXe siècle?
Alors, une fois par an, je dirais, au moment de ce qu'on appelle le dimanche de l'unité, il est de tradition qu'il y ait un échange de chair, hein, c'est-à-dire que l'archiprêtre de la cathédrale va prêcher au Temple Neuf, qui, alors il faut bien le redire maintenant ici, le Temple Neuf a été l'église de substitution pour les paroissiens protestants de la cathédrale, hein, puisqu'en 1681, eh bien, ils vont se réfugier au Temple Neuf.
Alors, voilà. C'était l'ancienne église des Dominicains.
Voilà.
C'est une église qui datait de la première moitié du XIIIe siècle, qui était la plus vaste et la plus belle de Strasbourg après la cathédrale, et qui va effectivement accueillir la paroisse protestante de la cathédrale après 1681.
C'est ça. Et donc, c'est la raison pour laquelle il reste, entre guillemets, un petit lien entre cette paroisse du Temple Neuf et la cathédrale à travers cet échange de chair. Pour le reste, comme dit, les protestants ont rendu la cathédrale en très très bon état, et c'est les catholiques qui l'ont mise au goût du jour en supprimant le jubé, en remplaçant l'autel. Et en tout cas, les catholiques ont hérité de l'horloge astronomique et ils en sont bien contents.
Nous avons célébré il y a peu le millénaire des fondations de la cathédrale de Strasbourg. Les protestants ont-ils été associés à cette célébration qui, bien évidemment, les intéressait aussi en raison de l'histoire que nous venons d'évoquer?
Alors, en fait, ils l'ont demandé, hein, voilà, mais ils l'ont obtenu. Hein, donc, Mgr Grallet a accepté de laisser un dimanche après-midi la cathédrale, la communauté protestante. Ils étaient très nombreux, d'ailleurs, à venir. La chorale était protestante, la prédication était du professeur et ancien président Liénard, voilà. Il y a eu un mot, bien sûr, aussi du président de l'Église unie, donc réformée luthérienne. Moi, j'ai beaucoup aimé la prédication du professeur Liénard parce qu'elle consistait à peu près à dire ceci. Pendant 150 ans, la cathédrale était protestante, mais n'insistons pas sur une rupture, insistons plutôt sur une continuité. Elle n'est pas devenue, alors il le dit autrement, mais je le traduis, elle n'est pas devenue un temple hindou ou une mosquée musulmane. Voilà. Elle est restée une église chrétienne, on a continué à célébrer le Dieu chrétien, la Trinité, etc. On a continué à baptiser, à célébrer le repas du Seigneur. Voilà. Et même s'il y a eu certains excès au départ de la réforme, par exemple au niveau du calendrier, on avait supprimé toutes les fêtes, y compris Noël, pratiquement après on les a presque toutes rétablies. Hein. On avait supprimé toutes les images et puis après, on en a mis quelques-unes. Il y a eu une espèce de moment initial qui était très radical.
Et un
reflux pour aller à un certain équilibre. Hein. Voilà.
Merci beaucoup, Bernard, pour cette belle évocation de la cathédrale de Strasbourg protestante. Je vous rappelle la chronologie, 1529-1681. C'est en chanson que nous allons nous quitter en retrouvant votre lointain cousin, mon cher Bernard.
Très lointain, mais réel.
Claude François. Claude François qui, en 1977, grande période du disco, et ce fut son dernier succès qui est sorti en décembre 1977. Trois mois plus tard, il nous quittait. Magnolia Forever. Et je remercie Thomas qui a réalisé cette émission, et j'aurai grand plaisir à vous retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles aventures historiques. Oh,
Non, je ne sais plus comment faire. Elle est si forte qu'elle se brise. Elle était fière, elle est soumise. Comme un amour qui lâche prise. Qui casse et ne plie pas. Tu y ressembles quand elle tremble. Et dans ta voix, chantant parfois.
Da 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 da.